La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, qu'est-ce qui se passe avec le dossier du groupe Juste pour rire?
Ben, ça va pas bien, hein?
Ça
va pas bien, mais pourquoi j'en parle ce matin? C'est parce que dans la presse, on souligne la stratégie du leverage buyout, c'est-à-dire l'acquisition par endettement. On dit dans le fond, on a acquis le groupe de Gilbert Rozon en endettant la compagnie et on souligne que ça a plombé l'entreprise. Et je voudrais quand même apporter certains bémols à cette stratégie. La stratégie de l'achat par endettement, c'est très, 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 très commun. Et il faut prendre un pas de recul, sortir de la forêt un peu, puis de la regarder dans son ensemble. Quand un acquéreur va acquérir une entreprise, il peut soit se financer lui-même ou dire, regarde, je vais acheter une entreprise que je vais endetter. Cette entreprise-là paiera de l'intérêt qui sera déductible. Et donc, dans le fond, j'achète l'entreprise avec sa capacité à générer plus de valeur, de la croissance et auto-générer des liquidités. Puis moi, dans le fond, je deviens éventuellement propriétaire d'une entreprise. Et quand j'étais à l'université, il y avait un prof qui m'avait montré ça de son propre cas. Il avait acheté une entreprise, il monte les états financiers, puis je disais, tu fais pas une scène. Puis il m'avait dit, ouais, mais tu vois-tu, je fais pas une scène, mais tout l'achat est financé par endettement à même l'entreprise, donc je fais pas d'argent pour l'instant, mais c'est pas moi qui paye techniquement. Et je trouvais ça intéressant, alors c'est ce qu'on a essayé avec Juste pour rire. Mais le problème, c'est que quand tu essaies ça, ça te prend une croissance ou un maintien de marge qui te permettra de payer, disons, les intérêts de plus que tu vas payer que l'ancien propriétaire. Mais ajoute dans la recette de la pandémie, de l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, l'explosion des coûts, la poursuite d'un ancien employé, la perte de contrats importants avec des télédiffuseurs, les grandes sociétés de réseaux sociaux qui changent leur modèle d'affaires, les autres humoristes qui sont poussés par TikTok et un peu de vitriol, et c'est la fin. Et c'est ça qui est arrivé, mais je ne suis pas de ceux qui vont lancer la pierre sur la stratégie du leverage buyout. Ça fait partie d'une stratégie normale d'entreprise. Et après ça, le groupe en haut aurait pu aussi refinancer avec leurs propres capitaux. Mais comme c'est une entreprise, disons, Inc., séparée des propriétaires, pourquoi prendre le risque?
T'es mieux de laisser le risque. L'autre question, est-ce qu'il reste des morceaux de Juste pour rire qui sont tentants pour des investisseurs? Est-ce qu'il y a encore des actifs là, qui ont une valeur?
Il y a des actifs qui ont une valeur, mais en fonction de ce qu'ils peuvent rapporter. Donc, le nom, par exemple, tu sais, acheter le festival ou Juste pour rire, ça te permet peut-être d'avoir le droit de continuer d'opérer un festival et donc d'avoir une valeur intangible. Des contrats avec des artistes, je sais pas où c'est rendu avec ça, ils ont-tu été libérés? Les droits sur l'ancien matériel. Dans le fond, ce que tu achètes surtout, c'est l'intangible et les relations politiques, disons, du groupe, j'imagine. Mais tu as raison, ça c'est intéressant ce que tu dis là. T'achètes, quand tu as une entreprise à maturité comme ça qui est en difficulté financière, tu ne peux plus acheter la promesse d'un ciel plus bleu, là. Tu l'as déjà connu pendant des décennies. Donc, t'achètes ce que ça vaut présentement, c'est-à-dire pas tant que ça. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont acheter des morceaux pour pas cher, ou il y a des gens qui vont tenter de dire « je vais acheter si j'ai le droit de continuer telle opération ou si tu me transfères tel contrat ». Mais le marché s'est effondré. On ne sait plus comment faire de la culture en général. On ne connaît pas l'avenir de la télé en général. Et les coûts d'opération sont énormes pour tout le monde. Et le centre-ville est dévitalisé. Donc, pour un groupe comme Juste pour rire au niveau canadien, québécois, francophone, c'est certain que celui qui achète ça va avoir une forte décote s'il veut garder quelque chose parce qu'il y a une prime de risque importante. Okay. À l'acquisition.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Là, tu veux me parler de WeWork et Davidity.
Ben oui, toutes deux entreprises complètement pareilles. Non, Paul, c'est parce que WeWork et Davidity sont dans les médias ce matin et il y a trois leçons de l'investisseur à tirer de ces deux groupes-là. La première, c'est, prenons les faits, là. WeWork, l'ancien propriétaire ou l'ancien fondateur, Adam Neumann, fait une offre qualitative de 500 millions sur l'entreprise qui est en restructuration et protégée de ses créanciers. De l'autre côté, t'as les dépanneurs Couche-Tard qui dit, on va distribuer en exclusivité, disons, des produits Davidity, donc du thé. Et ça me rappelle les trois leçons dont on a parlé souvent, pas les leçons, mais les réalités de ces entreprises-là au cours de la chronique. La première leçon, c'est qu'une croissance rapide tu peux plomber les liquidités d'une entreprise. WeWork a signé des baux partout à travers le monde. C'était cher, on y allait, on était en croissance, on voulait marquer l'imaginaire. Mais ça crée une crise de liquidité. De l'autre côté, David City, même chose. On a ouvert des succursales. On voulait être gros. On voulait être le Starbucks du thé. Mais au-delà de tout ça, la croissance est dure à soutenir en financement. Deuxième point. La valeur est créée par la demande et non par l'enthousiasme des investisseurs. Dans les deux cas, on s'est excité. Hein? David City est allé au Nasdaq en bourse. De l'autre côté, WeWork, on va révolutionner le monde. WeWork, oui, je comprends, mais tu demeures juste du coworking. Là. Le besoin, c'est quoi? C'est que tu loues en morceaux quelque chose qui est loué en totalité. Tu loues de l'espace bureau, tu le loues à des petits joueurs temporaires ou des gros joueurs temporaires. T'es pas en train de révolutionner le monde. Là. Tu fais juste fragmenter de la location, tu fais de l'arbitrage. Et donc, combien ça vaut ça? T'es-tu capable de supporter ton modèle d'affaires? Du côté de David City, je disais à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, je te disais, c'est du thé, Caroline, on n'est pas en train de changer le monde. Tu pourrais en vendre à l'épicerie, tu peux en vendre en poche, puis c'est pas vrai qu'un commerçant va être capable de vendre à des consommateurs des thés à 6 piastres en prenant de l'eau chaude pis en sacrant une poche dedans. Et donc, tu peux pas te prendre pour Starbucks. Non, mais c'est vrai, Starbucks a essayé le marché du thé. Ils se sont plantés royalement. Et donc, même si t'es excité avec le modèle d'affaires, ça demeure ce que c'est-à-dire vendre du thé et l'autre vendre du coworking. Et finalement, tu peux pas lutter contre la logique du réseau de distribution. Si le thé, c'est comme de l'huile d'olive, hein, un bien de première nécessité, mais dans l'épicerie, tu peux-tu créer un magasin de thé où tu le vends à quelqu'un d'autre qui le revend, comme on fait chez Couche-Tard? Tu vois, on a enfin adopté le bon modèle. De l'autre côté, WeWork, on va rationaliser le modèle si ça survit. Puis on va vendre du coworking comment? Bien, en loin du pied carré pas cher, dans des localisations qui ont une valeur. Là, présentement, WeWork a loué très cher dans des milieux dévalorisés, dans des centres-villes qui veulent se redéfinir et où le pied carré descend. Alors, tu vois, notre excitation d'investisseur, des fois, doit se calmer et garder le rationnel. Et là, tu vas aller boire du thé dans ton espace de coworking en y pensant avec tes actions de Banque canadienne qui t'apportent un dividende.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée.
C'est 23.